Les podcasts du Collège de France.
Bon, donc bienvenue à ce dernier cours, 3 jours après le début de l'été. C'est courageux de continuer à faire des électrons corrélés. Dans ce dernier cours, je vais continuer à vous parler d'effets de corrélation dans les oxydes de métaux de transition. Et cette fois, on va entrer un petit peu plus dans le côté réaliste des matériaux en tenant compte d'une chose très importante qu'on a peu discuté du point de vue, je dirais, problème à N-core, qu'on a pas mal discuté au cours 5 et 6 quand j'ai introduit la structure et la structure électronique des oxydes, qui est l'existence de plusieurs orbitales d, éventuellement avec une levée de dégénérescence du haut champ cristallin. Mais ce sont donc ces aspects multi-orbitaux dont je voudrais parler aujourd'hui. Dans notre exploration de la physique de la transition de Mott, au cours 7 et au cours 6 dans une certaine mesure, on a très peu parlé de ces aspects. On a établi les bases de ce qui se passait dans des situations simples à une orbitale. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est commencer à entrer dans les effets physiques qui sont liés à la dégénérescence orbitale. Alors, le séminaire d'aujourd'hui va être donné par Léon Balance, qui est ici, et qui va nous parler d'un sujet qui émerge beaucoup actuellement, qui est la compétition entre physique de Mott et couplage spin-orbit dans les oxydes, en particulier dans les oxydes de métaux de transition 5D. Comme vous le verrez, ces oxydes peuvent donner lieu à des effets de corrélation fortes, malgré le fait que les U ils sont génériquement plus faibles, dus au couplage spin-orbit. Donc, ce qu'on commence à découvrir, c'est que, finalement, l'ensemble des oxydes de métaux de transition, que ce soit les 3D, les 4D et les 5D, peuvent être des systèmes très corrélés pour des raisons différentes qui ne sont pas tous dues à, je dirais, la physique de Mott dans son acception la plus simple, c'est-à-dire du blocage de la charge par effet électrostatique. Alors, je voudrais tout de suite vous prévenir qu'il s'agit d'un sujet qui est, peut-être à la différence de certains des cours précédents, beaucoup moins exploré, qui est un peu qui est même en plein dans le domaine de recherche actuel. Et donc, pour cette raison, tout ce que je vais raconter aujourd'hui n'est pas forcément bien compris. Le cours d'aujourd'hui a en fait peut-être un peu plus l'aspect d'un séminaire en prise directe avec la recherche actuelle que véritablement d'un cours. J'en profite pour remercier toute une série de gens qui sont inscrits ici pour des discussions et des collaborations récentes dans des thématiques qui sont reliées au sujet du cours d'aujourd'hui. Alors voilà un petit peu ce que je voudrais essayer de couvrir. Bon, comme d'habitude, je ne vais sans doute pas arriver tout à fait au bout. Je voudrais d'abord établir ce qu'on sait des interactions entre électrons, au moins de la composante locale des interactions électron-électron, dans ce contexte multi-orbital. Alors ça, c'est un sujet que j'avais brièvement mentionné au passage vers le cours 5, et puis on s'était focalisé sur la composante principale de la matrice d'interaction, qui est le U, l'interaction électrostatique écrantée. Mais maintenant, je voudrais parler des autres termes dans cette matrice d'interaction, parce qu'ils vont jouer, dans le cas multi-orbital, un effet considérable. Alors ça va nous permettre de préciser finalement les différentes échelles d'énergie qu'on avait commencé à introduire au cours des cours précédents et qui sont pertinents pour les oxydes. Une fois qu'on aura fait ça, je vais un peu entrer dans le détail des différents effets nouveaux par rapport à la simple transition de Mott pilotée, je dirais, par l'électrostatique qu'on trouve dans ces systèmes multi-orbitaux. Et ce que j'ai fait là, c'est une espèce de menu à travers certains effets physiques originaux. Donc, je vais d'abord me placer ici dans un contexte plutôt modèle, où on verra comment la levée de dégénérescence, l'existence d'une dégénérescence orbitale a une importance pour la transition de Mott, comment la levée de cette dégénérescence orbitale a une importance, et comment le couplage de Hund modifie, même qualitativement, certaines des conclusions qu'on a en l'absence du couplage de Hund. Ensuite, je vais passer à un certain nombre d'illustrations physiques de ces effets. Donc d'abord un cas où la levée de dégénérescence du haut champ cristallin qui pilote le problème. Donc je vais vous montrer comment certains oxydes en fait sont tirés vers le côté isolant du diagramme de phase à cause de cette levée de dégénérescence orbitale. Donc ça, c'est quand la levée de dégénérescence gagne, ce qui conduit à des effets de polarisation orbitale forte. Si j'ai le temps, je vous parlerai de l'effet opposé. Donc il y a un couplage qui joue contre la levée de dégénérescence orbitale, qui est le couplage de Hund. Et ce couplage peut jouer dans un sens opposé en donnant lieu à une compensation des populations orbitales. Et je pense que c'est le cas du matériau qui a été beaucoup étudié à Orsay et Lausanne, barium VS3. Et puis si j'ai le temps vers la fin, je vous parlerai de quelque chose qui est vraiment sur la frontière des recherches actuellement, qui est la manière dont le couplage de Hund supprime les échelles de cohérence pour les quasi-particules dans ces problèmes. Bien. Alors donc, interaction dans un contexte multi-orbital. Alors souvenez-vous du cours 6. Au cours 6, j'avais expliqué que, en première approximation, ce qu'il nous faut faire pour caractériser la matrice d'interaction, en particulier ses composantes locales sur un seul site atomique, le site du métal de transition, dans un oxyde, c'est avoir une idée de l'interaction écrantée, puisque l'écrantage est évidemment un effet extrêmement important. On l'avait vu, je vous avais montré des calculs de la dépendance en énergie de l'interaction de Hubbard. Je vous avais montré comment on passe d'une valeur qui peut être 20 électronvolts à grande énergie à une valeur qui est quelques électronvolts sous la fréquence plasma. Donc c'est bien cette interaction écrantée qu'il faut considérer, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre les éléments de matrice de cette interaction écrantée dans des fonctions d'onde qui ne sont pas les fonctions de l'atome isolé, mais qui sont des fonctions, je dirais, de type fonction atomique, localisée, mais adaptée à la symétrie de l'environnement du solide. Donc des fonctions de Vanier localisées qu'on peut construire par des méthodes modernes de structure électronique et dont les symétries sont simplement prédites par ce qu'est la symétrie ponctuelle la symétrie de groupe ponctuelle du matériau auquel on s'intéresse. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est ça. C'est prendre l'élément de matrice de cette interaction écrantée entre ces fonctions quasi-atomiques ou ces fonctions de Vanier localisées. Alors ça va nous donner un Hamiltonien d'interaction, hein, que j'ai écrit ici dans toute son horreur, qui est en général est spécifié par un tenseur à 4 indices, U, M1, M2, M3, M4. Alors, en fait, ici, j'utilise la lettre M qui fait penser évidemment au LZ du nombre quantique orbital en présence de symétrie sphérique. C'est un peu peut-être misleading, cette notation. Je devrais écrire ici A, B, C, D, qui sont donc les indices correspondant aux différentes représentations, aux différentes fonctions de base des représentations irréductibles de mon groupe de symétrie cristalline. Mais enfin, bon, je vais jusqu'à quelques transparents encore utiliser plutôt les M. Je ne pense pas que ça prête vraiment à confusion. Bon, alors ça, c'est une chose. Donc, on va générer un tenseur qui a a priori beaucoup d'éléments de matrice, hein, comme vous le voyez. Heureusement, ils vont être quand même contraints par les symétries. Et la deuxième chose très importante, c'est que cette interaction écrantée n'est pas une fonction de R moins R', mais c'est une fonction de R et de R', puisque dans l'environnement du solide, l'invariance par translation complète est brisée. Donc, il faudra se souvenir de ça. Et en principe, il devrait y avoir une classification complète en termes de théorie des groupes du nombre de paramètres minimales pour une symétrie ponctuelle donnée qui caractérise ce tenseur. En fait, ça, c'est un problème qui n'a pas vraiment été considéré dans toute sa généralité jusqu'à maintenant. Il n'y a pas tellement de bonnes références là-dessus et ça pourrait même être quelque chose à nettoyer. Alors, je vais d'abord vous parler d'un cas simple, enfin simple, il n'est pas si simple que ça, mais disons d'un cas classique, qui est celui, justement, de l'atome isolé. Donc, on va faire pendant 10 minutes ou 15 minutes de la physique atomique, mais de la physique atomique un peu plus sophistiquée que simplement l'atome d'hydrogène. On va donc considérer ce problème, le calcul de ces éléments de matrice, hein, mais dans le cas où les Qm sont bien les fonctions d'onde de l'atome, et les fonctions d'onde atomiques, et donc où on a la symétrie sphérique complète, et où le potentiel ici est bien E carré sur R moins R', juste le potentiel de Coulomb avec toute sa symétrie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments de matrice? Alors, dans ce cas-là, on sait tout. Et il y a véritablement des travaux pionniers sur ce sujet qui ont eu lieu au milieu des années 20, ce n'est pas de la physique très très moderne, et qui se sont poursuivis jusque vers la fin des années 40, au milieu, début des années 50. Il y a trois grands noms qui sont des pionniers de cette analyse, qui sont, disons, qui ont établi les bases de la spectroscopie atomique au-delà de l'atome d'hydrogène, de la spectroscopie atomique en voyant l'atome comme un vrai problème à N-corps, comme un petit problème à N-corps ayant un nombre d'électrons fini. Donc, les grands noms là-dessus, c'est évidemment Friedrich Hund, qui est l'auteur des fameuses règles de Hund. Donc ça, c'est plutôt du côté, disons, des règles empiriques. Et puis, la mathématisation de toute la spectroscopie atomique, c'est l'œuvre de John Slater, le même John Slater que celui de la théorie des bandes, dans un article classique très tôt de 1929, où il dit appliquer « The theory of wave mechanics to the spectra of atoms ». Et puis, surtout, le travail extraordinaire de Giulio Racca dans une série de quatre articles dans PhysRev. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette série de quatre articles, qui commence en 1941 et qui se termine en 1949. Alors là, c'est quand même difficile de résister à vous faire partager un peu une sorte d'émotion que j'ai en regardant ces articles. Il faut savoir que Giulio Racca, donc voilà les premières pages du premier et du dernier de la série d'articles de Giulio Racca. Donc ça, c'est une petite minute historique et je trouve assez émouvante. Giulio Racca est un citoyen italien, juif, qui est victime des lois anti-juives du gouvernement italien en 1939, qui s'exile donc à Jérusalem, donc vous voyez ici Jérusalem-Palestine, et qui, à partir de 1941, se met à développer tout l'arsenal de la théorie des groupes pour la compréhension des spectres atomiques, dans une série de quatre articles qui soumet à Physical Review tous les deux ans, périodiquement, pendant que ses compatriotes et co-religionnaires se font assassiner en Europe. Et donc je trouve que c'est à la fois extraordinairement émouvant et une sorte d'acte d'héroïsme et de résistance symbolique que de voir que Giulio Racca, seul en Palestine, faisait ce genre de calcul et développait la théorie des tenseurs irréductibles en plein milieu de cette période. Je trouve que c'est une espèce de miracle, d'une certaine manière. Alors vous voyez qu'en 1941, son article, c'est « The Hebrew University, Jerusalem, Palestine », et en 1948, c'est « The Hebrew University, Jerusalem, Israël ». Donc là, en ouvrant PhysRev, on a quand même une espèce de page d'histoire qui, je trouve, mérite d'être soulignée. Alors, il y a beaucoup de références sur ce sujet, au-delà des articles classiques. Je vous encourage à regarder les articles de Racca, mais pas forcément à les lire dans son détail, parce qu'ils vont bien, bien au-delà de ce qu'on a besoin, nous, hein, en physique des solides, puisque, généralement, en physique des solides, ce dont on va avoir besoin, c'est de ces éléments de matrice lorsque on considère une seule couche atomique. Il est rare qu'on ait à considérer des éléments de matrice entre couches de nombres quantiques principales différents. Ça, c'est assez rare, puisqu'en général, les nombres quantiques principaux élevés sont des états de cœur ou des états extrêmement élevés en énergie. Donc, on a besoin, je dirais, d'une partie très restreinte de toute cette œuvre de Giulio Racca. En revanche, ce dont on aurait bien besoin, c'est d'une sorte de Giulio Racca moderne pour comprendre un peu plus la structure de ça dans véritablement l'environnement solide, ce qui n'est pas encore complètement fait. Alors, il y a un certain nombre de livres classiques sur cette spectroscopie atomique, Condon et Shortley, Slater, Fano, qui était d'ailleurs le cousin de Racca, Jude, Sobelman, enfin, il y a un certain nombre de livres classiques qui déroulent toute cette théorie des groupes pour ces interactions, pour cette spectroscopie atomique. Malheureusement, les références sur ce problème dans le cadre de l'état solide sont nettement moins satisfaisantes. Elles apparaissent principalement dans la littérature sur la spectroscopie OG, spectroscopie des états de cœur dans les solides, et ça, c'est George Zawadzki qui a été un grand pionnier de ces choses-là, ou bien dans la littérature sur LDA plus U, aussi un sujet que George a initié. où on a besoin de ces paramètres d'interaction pour poursuivre les calculs du point de vue premier principe. Alors, continuons un petit peu donc avec la spectroscopie de l'atome isolé. Donc, dans le cas de l'atome isolé, on a le potentiel de Coulomb, hein, et puis on peut se servir comme fonction de base des fonctions à un électron qui peuvent donc être séparées en parties radiales. Il ne doit pas y avoir de vecteur ici, c'est le module de R, bien sûr, et l'harmonique sphérique YLN. Donc, ce qu'on veut, c'est exprimer dans ce tenseur à 4 indices, c'est séparer les parties angulaires et les parties radiales. Alors, il y a un célèbre développement du potentiel de Coulomb qui permet de faire ça. On développe le 1 sur R2 plus R'2 moins 2RR' cosinus oméga en utilisant les polynômes de Legendre. On décompose les polynômes de Legendre sur les harmoniques sphériques. Et après un calcul sans difficulté, on obtient cette formule. Où vous voyez qu'ici, on a une somme, a priori une somme infinie, qui fait intervenir un développement. Alors, traditionnellement, dans ce domaine, on nomme R petit et R grand le plus petit ou le plus grand de R et R prime. Donc, bref, si R est plus petit que R prime, R petit c'est R et R grand c'est R prime, sinon c'est l'inverse. Et puis ici, on a une somme sur les harmoniques sphériques et vous voyez qu'on a séparé les variables radiales et les variables angulaires associées à R et associées à R prime. Alors, une fois qu'on a fait ça, tout ce qui reste à faire, c'est de prendre les éléments de matrice de cet objet dans ses fonctions d'onde. Alors, c'est là que les propriétés du groupe des rotations interviennent. Ce qu'on peut voir, c'est que donc ce tenseur, dans le cas donc atomique, asymétrie sphérique, hein, à cause de cette formule, se décompose sur... donc cette somme sur K, elle devient ici cette somme sur K là, et elle se décompose donc sur une combinaison linéaire de nombres, Fk, qui ne font intervenir que les intégrales radiales, hein, qui ne font intervenir que les intégrales sur cette partie radiale du potentiel, et toute la dépendance angulaire nous donne la dépendance en M1, M2, M3, M4 de ce tenseur, et c'est là où la théorie des groupes à la Raka intervient. Alors, donc, dans ce domaine... Dans cette formule, vous avez condensé en une seule formule Raka et Slater, puisque ces intégrales Fk s'appellent les intégrales de Slater. Elles ont été introduites dans cet article de 1929 dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ces coefficients-là sont des cas particuliers, je dirais, de l'immense travail de Raka dont je parlais tout à l'heure, et s'expriment en termes des fameux symboles 3J qui interviennent quand on additionne trois moments cinétiques. Donc voilà les formules, il n'y aura pas beaucoup de formules compliquées comme ça dans ce cours, c'est essentiellement le seul transparent. Donc ces intégrales de Slater, vous voyez, elles découlent directement de l'intégrale radiale avec les carrés des deux fonctions d'onde radiale de mes orbitales. Et donc ici, vous voyez, je me suis spécialisé au cas où je considère la même couche atomique, même nombre quantique principal, même nombre quantique orbital pour mes deux électrons. Vous pouvez, dans ces livres, trouver des généralisations de toutes ces décompositions tensorielles dans un cas plus général. Donc, il y a cette intégrale de Slater. Et puis, ici, il y a ce nombre. Et ce nombre s'exprime, c'est la pure théorie des groupes, s'exprime comme une somme finie sur des éléments de matrice de trois fonctions harmoniques sphériques qui peuvent se décomposer donc sur ces symboles 3J de la théorie de l'addition des moments cinétiques. Donc ces symboles de Wigner-Raka. Donc ces nombres sont entièrement connus, et donc la partie, le oméga k de M1, M4, dans le cas de la symétrie sphérique complète, est complètement connue. Alors évidemment, il y a des règles de sélection sur ces symboles, et il est facile de voir, à cause des propriétés de ces symboles ici, donc des règles, des contraintes sur l'addition des moments cinétiques, il est facile de voir que, dans le cas d'une couche D, donc j'ai dû écrire ça quelque part ici, je ne sais pas où. Voilà, dans le cas d'une couche D, hein, quand L égale 2, eh bien en fait il n'y a que 3, cette somme sur K se termine en fait à K égale 2 et ne fait intervenir que F0, F2 et F4. Donc il n'y a que 3 intégrales de Slater qui interviennent. Dans le cas d'une couche F, il y en a 4, F0, F2, F4, F6. Donc les interactions, ce tenseur d'interaction dans le cas d'un atome, d'une couche D ou d'une couche F, sont entièrement spécifiés. Dans le premier cas, par 3 intégrales de Slater, et dans le deuxième cas, par 4 intégrales de Slater, avec des coefficients, des dépendances sur les fonctions de base qui sont complètement déterminées par des considérations de théorie des groupes. On peut un peu simplifier le problème si on veut, ce n'est pas une trop mauvaise approximation. Dans le cas où on utilise pour les fonctions d'onde des fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène, à ce moment-là, évidemment, ces intégrales de Slater peuvent être calculées. Et on peut même calculer, même analytiquement, c'est assez extraordinaire, vous pouvez voir ça dans les appendices de ces livres ou de ces articles, des rapports de ces intégrales de Slater qui sont quelquefois utilisées en pratique pour simplifier le problème. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui est vrai pour des fonctions d'onde hydrogénoïdes, donc F4 sur F2 pour une couche D est donnée par ça, et pour une couche F est donnée par ces valeurs, dans le cas d'une fonction d'onde hydrogène. Bon, donc ceci établit la forme complète de cet élément de matrice pour l'atome isolé. Mais évidemment, ce n'est pas l'atome isolé qui nous intéresse. On a déjà vu que si on regardait le U électrostatique, c'est-à-dire UMMMM, hein, eh bien, ça serait 20 électronvolts dans l'atome isolé. Donc, il nous faut écranter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux effets principaux qui viennent changer les choses. D'une part, les fonctions d'onde ne sont plus les fonctions de tout à l'heure, mais sont plutôt des fonctions de Vanier plus ou moins localisées, selon la construction qu'on utilise, qui vont générer, qui vont être, se transformer, enfin, si on ne s'est pas trop trompé, sous les représentations irréductibles du groupe ponctuel. Et puis, le potentiel d'interaction est écranté, devient une fonction de RR'. Donc, a priori, le problème est assez complexe. Et c'est assez intéressant de voir que, finalement, il y a une sorte de bond, je dirais, à l'époque de Slater ou Raka, on écrivait des articles pour essayer de classifier sous la théorie des groupes de ce tenseur, disons à la fin des années 2000 ou au début des années du 21e siècle. On préfère mettre tout ça sur l'ordinateur, utiliser des méthodes premier principe pour obtenir ce tenseur. Et à mon avis, la théorie des groupes sous-jacente a été un peu négligée. Mais enfin, bon, il faut dire quand même qu'on commence à être capable de faire ce type de calcul en pratique, hein, de véritablement avoir des méthodes pour calculer le potentiel d'interaction écranté et prendre des éléments de matrice dans des fonctions de Vanier construites à partir des méthodes de structure électronique. Donc c'est un sujet qui est juste sur la frontière de ce qui se développe actuellement, donc je ne peux pas dire qu'on en ait une compréhension complètement satisfaisante, mais je vais vous montrer quelques exemples un petit peu plus tard. Bon, alors, comme ce tenseur est très compliqué, UM1, M2, M3, M4, c'est quand même difficile de voir tout de suite la physique dans un tenseur à 4 indices, je vais essayer de simplifier un petit peu le problème. Considérons, il y a certains termes de ce tenseur qui peuvent se voir comme des interactions densité-densité, hein, qu'il faut intervenir le nombre d'électrons dans l'orbital M et le nombre d'électrons dans l'orbital M', avec des spins parallèles ou antiparallèles. Et puis, il y a certains termes de ce tenseur qui ne sont pas des interactions densité-densité. Alors, comme on comprend un petit peu mieux qualitativement les interactions densité-densité, je vais commencer par me focaliser sur celle-ci. Donc, je vais retenir dans ce tenseur uniquement les termes qui sont densité-densité. Alors, j'insiste sur le fait que ceci n'est pas nécessairement une chose recommandable à faire en pratique. Hein. En particulier, vous violez un certain nombre de symétries du problème si vous faites ça. Et ceci peut être important ou ne pas être important selon le régime dans lequel vous vous placez. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'essaierai de répondre à cette question dans ce cours, au moins pour ce qu'on en comprend actuellement. Je vous montrerai plus tard des situations où négliger ces termes non-densité-densité, c'est innocent, et des situations où c'est grave. Bon, alors si vous vous spécialisez à ces interactions densité-densité, il y a deux matrices. Maintenant, ça devient des matrices à deux indices, qui est la matrice des interactions densité-densité pour deux électrons de spin parallèles, et comme ils ont leur spin parallèle, ils ne peuvent nécessairement être que dans deux orbitales différentes, à cause de Pauli, et puis une matrice d'interaction ici pour deux électrons ayant des spins antiparallèles, qui peuvent être donc soit dans la même orbitale, soit dans deux orbitales différentes. Alors ces deux matrices, c'est donc la réduction du tenseur complet de tout à l'heure, au cas où on a MM', MM'. Ça, c'est la matrice des spins parallèles. Et puis la matrice antiparallèle, et puis la matrice des spins parallèles, c'est celle-ci, moins l'interaction d'échange, UMM', M', où on a donc échangé les deux électrons. Hein? Donc il y a une interaction directe et une interaction d'échange. On appelle quelquefois cette matrice UMM' et cette matrice JMM'. Et donc voilà l'apparition d'un des acteurs importants du cours d'aujourd'hui, qui est essentiellement la règle de Wundt, Hein, J est une constante qui est génériquement positive, tout au moins dans les atomes gentils. Et ce qui se passe, c'est que donc l'interaction électrostatique vue par des spins parallèles est réduite par l'interaction d'échange J. C'est la deuxième règle de Hund. La troisième règle de Hund, elle est liée au couplage spin-orbite. C'est Léon qui peut-être aura affaire à la troisième règle de Hund tout à l'heure. Mais disons, la deuxième règle de Hund, elle nous dit essentiellement que quand j'ai le choix, eh bien, je dois mettre mes deux électrons dans des orbitales différentes avec des spins parallèles. Ça abaisse un peu l'énergie de J. Ce J va jouer un rôle très important dans la suite. Donc vous voyez, j'ai fait ça parce que quand on se spécialise à ces interactions densité-densité, finalement on commence à y voir un petit peu plus clair sur l'origine de cette physique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces tenseurs U, MM', J, MM', ou la version complète dans l'environnement solide? Alors là, j'ai essayé de faire une liste de ce que je dirais est un petit peu un folklore du domaine. Et ce folklore, j'utilise pas ce mot dans un sens péjoratif, il y a une bonne partie de ce savoir empirique qui est effectivement justifié par des expériences de spectroscopie, j'ai cité le nom de Zawadzki tout à l'heure, mais également justifié finalement par la comparaison entre des calculs utilisant ces hypothèses et les expériences sur des matériaux concrets. Je dois dire que pour ce qui est de la vérification ou de l'invalidation de ces idées par des calculs partant des premiers principes, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est dedans du point de vue de la recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est véritablement clos. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, évidemment, c'est que la nature de cette matrice d'interaction va dépendre du type de fonction de Vanier que je construis. Si je construis des fonctions de Vanier qui sont extrêmement localisées dans l'espace, elles vont ressembler aux combinaisons linéaires d'orbitales atomiques que je dois faire pour générer les représentations irréductibles de mon groupe de symétrie dans le cristal. Donc, en fait, ça va être des fonctions essentiellement atomiques. Je peux toujours travailler dans la base des harmoniques sphériques si je veux. Et si je considère de telles fonctions de Vanier, l'approximation qui consiste à utiliser la symétrie sphérique et puis à construire comme ça mon tenseur dans la bonne base, va probablement pas être trop mauvaise. En revanche, si je commence à considérer des fonctions de Vanier beaucoup plus étendues, eh bien, clairement, ces fonctions de Vanier vont sentir ce qui se passe sur les atomes voisins, elles vont être différentes selon les différentes représentations, et l'approximation sphérique va devenir de plus en plus mauvaise. Alors, on avait vu au cours 5, le cours sur les oxydes, comment, pour une structure électronique donnée simple, qui était une pérovskite cubique, on pouvait construire des fonctions de Vanier qui contenaient toutes les orbitales D et les oxygènes, et ça me donnait des fonctions de Vanier très localisées, qui ressemblent à une orbitale D atomique ou à une orbitale P atomique, ou bien je pouvais essayer de construire un modèle juste pour un nombre minimal de bandes D, et ça me donnait des fonctions de Vanier très étendues. Et clairement, la forme de ce tenseur va être différente si je considère un modèle effectif très restreint, ce qu'on appelle dans le jargon massive downfolding, on projette sur un tout petit espace d'énergie, ou un espace de Hilbert beaucoup plus grand, qui retient plus de degrés de liberté. Alors, je vais vous donner un exemple explicite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une chose certaine, c'est que l'intégrale de Slater F0 va être fortement réduite par écrantage dans le solide. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tout à fait clair par au moins un facteur qui peut être de l'ordre de 10. En revanche, il y a une observation empirique, je crois qu'elle vient beaucoup de Zawadzki, qui est que les autres intégrales de Slater, qui vont déterminer les autres parties du tenseur, sont relativement peu affectées par l'environnement solide. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est complètement surprenant, dans la mesure où si vous regardez ces intégrales de Slater, elles font plus appel à la partie courte distance de la fonction d'onde. Donc ce n'est pas complètement étonnant. Ce n'est pas non plus complètement juste, forcément. C'est quelque chose qu'il faudra discuter matériau par matériau. Alors, voilà un exemple. Donc ça, c'est un exemple de calcul par, je dirais, les méthodes dont on dispose actuellement, qui est véritablement un calcul, premier principe, pour une classe de matériaux qui est de grand intérêt aujourd'hui, qui sont les fameux pnictures de fer supraconducteurs dont vous avez entendu parler dans le séminaire de Véronique Brouet, que vous connaissez tous bien. Donc ça, c'est un article qu'on a écrit avec Takashi Miyake, Martus Eichhorn et notre équipe Alix, et qui utilise une méthode dont j'avais parlé un petit peu dans un cours précédent, qui est cette méthode de la RPA tronquée, c'est-à-dire on fait un calcul de la bulle électron-trou qui est une modélisation raisonnable de l'écrantage, et on tronque toutes les transitions atomiques qui appartiennent au sous-espace qu'on veut retenir. Donc, dans la mesure où, au moins pour les bandes de haute énergie, l'approximation RPA, qui dans ce jargon a tendance à s'appeler GW, enfin, en gros c'est la RPA, est une bonne approximation, c'est un traitement de l'écrantage qui ne semble pas trop déraisonnable. Quand on commence à fermer la fenêtre d'énergie de plus en plus, on peut discuter de la validité de l'utilisation de la RPA. Alors voilà donc ces matrices d'interaction. Dans le cas densité-densité, hein, les composantes densité-densité, pour les 5 orbitales D, ou plus précisément, les 5 fonctions de Vanier de type D, construites lorsque je retiens une fenêtre d'énergie très grande qui retient les orbitales de fer, les orbitales P de l'arsenic et les orbitales P de l'oxygène. Donc, une grande fenêtre d'énergie qui va me donner des fonctions de Vanier très localisées. Donc, voilà la matrice des interactions entre spin antiparallèles. Les orbitales ont été classées dans un certain ordre qui est donné ici, et puis la matrice des interactions de spin parallèles. Bon, alors vous voyez, ça c'est un tableau de nombres. Si vous me demandez en fait combien de paramètres indépendants dans cette matrice, il faudrait appeler M. Raka et lui demander de refaire la théorie des groupes dans ce cas-là. Ce n'est pas un travail qui a vraiment été complètement fait jusqu'à maintenant, mais ce que vous pouvez observer ici, c'est que si vous regardez par exemple le U de Hubbard, qui est l'interaction dans une même orbitale entre spin antiparallèle, qui va donc être la composante diagonale de cette matrice. Alors, vous voyez que c'est toujours le plus grand, évidemment, ce qui est normal, hein, puisque, justement, les autres sont réduits par Hund. Et vous voyez que si vous regardez la dépendance en orbitale de ce U de Hubbard, elle n'est pas si grande que ça. Le nombre le plus petit ici, c'est 3,31 électronvolts, et le nombre le plus grand, c'est autour de presque 3,9, presque 4 électronvolts. Et donc, il n'y a pas des variations si gigantesques que ça d'une orbitale à l'autre. Et ça, c'est parce que finalement, mes orbitales sont relativement bien localisées. Alors, vous voyez que si je compare ces nombres à ceux qui sont ici pour des spins parallèles, ou bien à l'interaction pour M différent de M', qui sont les éléments, mes spins antiparallèles, qui sont les éléments non diagonaux de cette matrice, on a effectivement des nombres plus faibles. Et ça, c'est l'effet du couplage de Hund, J. Alors, effectivement, vous pouvez essayer d'écrire le meilleur fit de ces deux matrices à la forme à symétrie sphérique, à la Slater Raka que je donnais tout à l'heure, et vous obtenez actuellement, à ce moment-là, ces deux matrices-là, qui sont un petit peu différentes de celles-ci, hein, mais si vous faites le calcul, vous verrez qu'en fait, la déviation standard, disons, entre ces deux tableaux de nombres n'est jamais plus grande que 10%. Donc, l'approximation sphérique est quand même pas trop, trop mauvaise. Et on en déduit de ça qu'on a un U dans ce matériau qui, dans le cadre de cette méthode, et pour ses fonctions de base, est de l'ordre de 2,7 électronvolts et un J de l'ordre de 0,8 eV, ce qui est une valeur tout à fait raisonnable pour le fer. J de l'ordre de 0,8 eV, c'est quelque chose qui est raisonnable, même pour l'atome de fer, ce qui confirme au passage cette notion que le couplage de Hund n'est peut-être pas si changé que ça dans le solide. Alors, vous voyez donc comment ce type de calcul permet actuellement de préciser un petit peu à quel point un matériau est corrélé ou non et sert d'input à des calculs de type problème à n corps ultérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe en revanche si je considère des fonctions de Vanier beaucoup plus localisées, beaucoup moins localisées, une fenêtre d'énergie beaucoup plus petite, où je projette par exemple seulement sur un Hamiltonien effectif qui contient les atomes, les 5 bandes du fer? Alors, à ce moment-là, je vais avoir des fonctions de Vanier qui vont couler, qui vont avoir des composantes sur les atomes de ligand, hein, donc sur l'arsenic en particulier. Et si vous refaites le calcul de cette interaction écrantée dans ces éléments, dans ces fonctions de Vanier plus étendues, vous voyez que les choses commencent à se passer beaucoup, beaucoup plus mal, à savoir qu'il y a une très forte dépendance orbitale de ces matrices. Donc, vous voyez ici, le plus grand nombre, c'est 3,4 électronvolts. Ici, le plus petit, c'est 2,2 électronvolts, donc des différences qui commencent à devenir considérables. Et ceci est normal et physique, reflète simplement le fait qu'il y a certaines de ces fonctions, celles qui sont dans les plans, qui sont beaucoup plus étendues, que d'autres, et par conséquent, l'élément de matrice pour ces fonctions est plus petit. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à l'utilisation de la symétrie sphérique pour construire ce tenseur d'interaction. Il faut faire attention à dans quelle fenêtre d'énergie on écrit le modèle effectif. Évidemment, on est tous des physiciens qui croyons à la réduction sur des modèles de basse énergie. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on commence à aller vers des modèles d'énergie de plus en plus basse, il est possible qu'il y ait des interactions de plus en plus complexes, c'est une idée classique du groupe de normalisation, qu'il faille introduire. Par exemple, des interactions non locales ou des interactions retardées. Donc attention, dans certains cas, à l'utilisation de modèles de type Hubbard avec des interactions locales instantanées pour un sous-espace d'énergie trop petit. Pour être un petit peu plus précis, il est assez légitime de penser que si vous êtes dans un système où il y a une forte hybridation avec les orbitales de ligands, donc par exemple ces systèmes-là, ou les oxydes de métaux de transition tardifs, donc ceux qui sont du côté droit de la ligne des métaux 3D, dans la classification qu'on avait vue, les isolants de transfert de charge, eh bien, il est particulièrement dangereux de travailler avec des modèles de type Hubbard qui ne contiennent que les orbitales D et des interactions purement locales. Il faut certainement garder les orbitales de ligand dans le modèle et également une interaction entre ligand et orbital D, quitte à traiter cette interaction dans l'approximation de Hartree, puisque les orbitales d'oxygène sont essentiellement pleines. En revanche, pour les oxydes de métaux de transition légers, disons, ceux qui sont à la gauche de la ligne, eh bien, des modèles de type Hubbard sont plus justifiés. Bon, alors, donc, ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'était pour essayer de gagner de la compréhension physique intuitive sur ce gros tenseur en se spécialisant aux composantes densité-densité. Donc maintenant, je voudrais vous montrer au moins un cas où on sait vraiment dire toutes les contraintes liées à la symétrie et où on ne va pas jeter des termes et pas violer les symétries du problème. Alors, il y a un cas classique, probablement un des seuls qui est vraiment bien compris d'ailleurs, qui est celui de la représentation T de G en symétrie cubique. Donc, je vous rappelle, on l'a vu au cours 5, je crois, que quand j'ai un cristal avec une symétrie cubique, la dégénérescence 5 de mon orbital D est levée, et quand j'ai un environnement de type octaédrique de mes ions de métaux de tension, il est levé entre un triplet T de G de plus basse énergie et un doublet EG de plus haute énergie. Donc le triplet T de G, c'est les orbitales X, Y, Y, Z et X, Z qui pointent en dehors des oxygènes, alors que les deux autres pointent vers les oxygènes. Alors dans ce cas-là, c'est très... Donc, on avait vu que les harmoniques, dites harmoniques cubiques qui génèrent ces orbitales, sont des combinaisons linéaires des harmoniques sphériques. Et dans ce cas-là, c'est très facile de voir qu'il y a seulement un certain nombre de composantes de ce tenseur qui sont non nulles. Alors il y en a en fait trois, et il y a trois composantes non nulles, et ces trois composantes non nulles ne dépendent en fait que de deux paramètres indépendants. Donc il n'y a que deux paramètres dans le problème. Donc la première composante non nulle, c'est UAAAAA, ça c'est évidemment l'interaction répulsive entre deux électrons de spin opposés dans la même orbitale. Et comme j'ai une symétrie cubique parfaite, elle ne dépend pas de l'orbital considéré. Il y a un autre paramètre qui est l'interaction répulsive entre deux électrons de spin antiparallèles dans deux orbitales différentes. Ça, c'est réduit par le couplage de Hund, c'est U, moins quelque chose qui est lié à l'interaction d'échange. Et en fait, on peut montrer que ce couplage est relié à celui-ci par U' égale U moins 2J, où J est la composante d'échange de l'interaction. Il y a en fait deux interactions d'échange. Il y a l'interaction de tout à l'heure, ABBA, qui est une interaction densité-densité, donc la composante d'easing de l'interaction d'échange. Et il y a une composante non-densité-densité, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui dans mes notations est AABB, qui est la composante XY, et puis d'autres, de l'interaction d'échange. Et ces deux composantes, dans cette symétrie, sont égales. Donc il n'y a que deux paramètres, U et J. Alors, vous pouvez vérifier que, contrairement à ce qu'écrivent certains articles, la spécialisation de la symétrie sphérique, des formules de la symétrie sphérique, est compatible avec ces formules. Et les liens entre U' et J et les intégrales de Slater sont donnés ici, et vous vérifierez que U' vaut bien U moins 2J. Donc, au bout du compte, l'hamiltonien T de G, il est écrit là. Et donc, où A, B et C sont XY, XZ et YZ, et vous voyez qu'il y a deux paramètres, un certain nombre de termes. Donc ça, c'est le terme de Hubbard, celui dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Ça, c'est U' égale U-J, qui est l'interaction entre orbitales différentes de spin antiparallèle. Et puis la plus petite, c'est l'interaction dans deux orbitales différentes de spin parallèle, règle de Wundt. Tous ces termes sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les termes densité-densité, mais il y a en plus deux autres termes qui sont des termes de type XY, hein, et des termes de type, je dirais, saut de paire sur un même site, échange de paires sur un même site, qui sont des termes non-densité-densité, et je vais discuter de leur importance dans un petit instant. Si vous voulez vous convaincre que cette forme est une forme très générale qui satisfait l'invariance, les invariances et les symétries du problème, c'est un petit calcul. Il faut introduire les opérateurs de symétrie. Donc il y a la charge totale qui génère les opérateurs de symétrie. Donc il y a la charge totale, la symétrie U1 du problème. Il y a le spin, 1,5. Donc je somme sur toutes les orbitales, et ça c'est les générateurs, c'est les matrices de Pauli du spin 1,5. Et puis il y a le moment orbital, ou si vous voulez, qui joue ici le rôle d'un isospin de couleur, hein, qui est donc je somme sur tous les spins et je mets ici les générateurs du groupe des rotations dans la représentation de spin 1. Donc il peut aussi s'écrire en termes du tenseur complètement antisymétrique. Donc vous avez ces trois opérateurs et avec un peu d'algèbre, vous pouvez réécrire cet Hamiltonien sous la forme un coefficient proportionnel à n carré. Et en fait, je l'ai mis ici sous la forme qu'on aime bien, nn-1 sur 2, l'interaction électrostatique totale, un terme proportionnel au Casimir de spin, donc au carré du spin total, et un terme proportionnel au carré de l'isospin, ou du moment orbital, avec des coefficients ici et là, qui sont dictés par les contraintes sur ce tenseur. Et donc, vous voyez que de manière manifeste, sous cette forme, cet Hamiltonien T2G respecte les symétries du problème. J'espère que cette formule est juste et compatible avec les notations précédentes. Je ne vous le garantis pas complètement. La littérature est pleine de misprints sur ce sujet en plus, alors, et de conventions différentes. Ce n'est pas si simple de s'y débrouiller. Bon, donc, au terme de cette beaucoup trop longue introduction sur la groupologie de ce UM1, M2, M3, M4, mais qui, vous voyez, contient quand même beaucoup de physique, vous voyez que, et au terme des cours précédents sur les oxydes de métaux de transition, vous voyez qu'on se retrouve avec dans les mains un certain nombre d'échelles d'énergie. Hein. Donc, si je fais un peu une liste des échelles d'énergie qui sont les acteurs possibles de la physique des oxydes, vous voyez que j'ai la largeur de bande, de ma bande D, ou plutôt, je dirais, l'énergie cinétique disponible dans la partie occupée de la bande, qui va être évidemment liée à l'intégrale de saut entre oxygène et métal de transition, et à l'énergie de transfert de charge. J'ai cette énergie de transfert de charge elle-même, dont on avait vu que c'était la distance entre, disons, les orbitales de ligand et les orbitales de métal de transition, donc ce delta. J'ai un UDD électrostatique sur le U de Hubbard sur mes orbitales D. J'ai également le couplage de Hund, qui est le nouvel acteur introduit surtout aujourd'hui. Et puis, éventuellement, si je considère une fenêtre d'énergie qui contient les ligands, j'ai aussi un UPD. Donc, voilà un petit peu les différents acteurs dans cette physique. Et selon les matériaux, certains vont être importants, d'autres non. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup à jouer, non seulement avec la classification périodique, mais aussi avec les modèles et les différents régimes de ces paramètres. Bon, alors, pour s'y retrouver un petit peu, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de vous donner une idée de ce qu'on sait sur la dépendance de la transition de mode, de la physique des corrélations, les effets qui sont spécifiquement liés à l'existence de plusieurs orbitales. Et d'abord, je vais commencer avec des considérations modèles très simples qui ont été établies, je dirais, au cours de ces 10 ou 15 dernières années par des méthodes qui, la plupart du temps, sont soit des méthodes de type Gutzwiller, Brinkman-Rice, boson esclave, sous différentes formes, couleurs et parfums, telles que j'en ai un peu parlé dans les cours précédents, soit des méthodes de champ moyen dynamique. Alors, je vais déjà considérer le cas où j'ai tout simplement N orbitales dégénérées, pas de levée de champ de cristallin, etc., et seulement U. seulement l'interaction électrostatique, pas de couplage de Hund. D'accord ? Donc c'est vraiment le cas le plus simple. Ça serait le cas, si vous voulez, ici, où je négligerais ces termes, et puis je garderais ici ce terme d'électrostatique. Donc c'est la simple généralisation de ce qu'on a fait dans deux des cours précédents, au cas où il y a n orbital. Hein, donc n orbital, 2 électrons par orbital, remplissage maximum, 2n électrons par site, dans mes notations. Bon, alors vous pouvez généraliser le calcul de Moenckmann-Reiss, le calcul de Gutzwiller, ou les calculs de champ moyen dynamique, à ce cas-là. Tout le monde est à peu près d'accord, à des coefficients numériques près. Et ce qu'on trouve, par exemple, dans la méthode de Gutzwiller, c'est cette formule pour le couplage critique de Boyne-Mann-Reiss, c'est-à-dire l'endroit où le résidu de quasi-particule s'annule, hein, la transition de Boyne-Mann-Reiss. C'est une formule qui a l'air un peu compliquée comme ça. Elle fait intervenir ici un seul paramètre énergétique, qui est l'énergie cinétique par électron dans la partie occupée de la bande. Hein, donc ça, c'est un nombre qui dépend de petit n et qui va être en gros l'échelle d'énergie disponible pour le mouvement des électrons. Et puis un facteur combinatoire qui est ce facteur-là. Et c'est plus instructif de regarder des cas spéciaux. Donc si je regarde cette fonction, vous voyez qu'elle est maximum au demi-remplissage, c'est-à-dire quand j'ai n électrons par site. Hein, si j'ai n orbital, je peux mettre au maximum n électrons, je peux mettre au maximum 2n électrons par spin, par site, à cause du spin, et la bande demi-remplie, c'est donc n électrons par site. C'est là où il est le plus difficile de générer l'isolant quand il n'y a pas de couplage de Hund. Alors ça, c'est assez normal, parce que c'est là aussi où il y a le plus de fluctuations dans ce multiplet. La dégénérescence de ce multiplet est la plus grande, ça c'est juste les coefficients du binôme. Et donc, si vous tracez ce U critique en fonction du remplissage de la bande, donc ça, ça serait 0 électron, ça, ce serait 2n électrons. Évidemment, il n'y a des U critiques que pour les remplissages entiers, hein, donc il faudrait mettre ici seulement les remplissages entiers. Vous voyez que donc, on a une dépendance du U critique dans ce remplissage qui est quelque chose comme ça. Ça, c'est le cas qu'on a discuté dans les cours précédents, une seule orbitale, et quand on augmente le nombre d'orbitales, eh bien, ce couplage critique U de Boyne-Mann-Reiss augmente linéairement, en gros, en nombre d'orbitales. Donc, c'est quelque chose qui augmente linéairement en n. Et donc, vous voyez que ça devrait vouloir dire que si j'ai un système avec où le lever de dégénérescence par le champ cristallin est négligeable, un système, un oxyde de métaux de transition 3D, n égale 5, et donc les couplages critiques de mode devraient être considérables souvent, en particulier vers le milieu de la série. Bon, alors, je ne veux pas m'étendre trop parce que je n'ai pas trop de temps ici, finalement, sur certaines subtilités de la chose. Là, j'ai décrit la valeur critique du couplage de Brinkmann-Reiss. On a vu que dans l'approche de champ moyen dynamique en particulier, on pouvait stabiliser une solution isolante à des couplages plus faibles et que ça donnait lieu à un point critique à température finie, qui est le point critique liquide-gaz associé à la transition de Mott. Alors, il se trouve que ce point critique où le gap s'ouvre, une solution isolante avec un gap s'ouvre, est en fait quelque chose qui croît aussi avec les dégénérescences orbitales, mais beaucoup plus lentement, comme racine de n. Ça, c'est quelque chose qui a été montré par Gunnarsson il y a pas mal de temps et qu'on a repris dans un article avec Olivier en particulier il y a quelques années. Et donc, en fait, cette remarque peut bien avoir une importance pour la physique parce que les températures où on commence à voir apparaître le comportement isolant sont liées à ce point critique, au crossover lié à ce point critique de température finie. Donc, est-ce que c'est plutôt racine de n ou n qui contrôle le couplage critique? C'est une question qu'il faut regarder matériau par matériau, je dirais. Mais le point principal que je veux faire ici, ce n'est pas celui-là, c'est le fait que ce comportement simple ici et cette notion que le couplage critique dépend fortement de n, c'est quelque chose qui est fortement, fortement modifié par le couplage de Hund. J joue un rôle considérable dans ce problème pour changer ce résultat. Donc, le couplage de Hund, comme je vais vous le montrer dans les quelques transparents suivants, il a un certain nombre d'effets qualitatifs importants qui ne sont pas forcément tous encore complètement compris, mais je crois que ce que j'ai mis là, qui est une liste de ce qu'on sait aujourd'hui, est à peu près fiable. D'abord, la valeur critique pour l'ouverture pour la transition vers l'isolant, est fortement réduite en comparaison du cas J égale 0. Donc ça, ce n'est pas étonnant. En réalité, c'est simplement parce que si vous faites J égale 0, le multiplet atomique, hein, si vous considérez la limite atomique du modèle où tous les sites sont découplés, le multiplet atomique a une dégénérescence énorme, alors que, surtout si vous avez plusieurs électrons, alors qu'en présence du couplage de Hund, la dégénérescence de ce multiplet atomique devient plus faible, et donc il va être plus facile d'aller vers la localisation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, loin de la transition de Mott, négliger les composantes non-densité-densité de l'Hamiltonien de tout à l'heure, ce n'est pas très grave. Vous allez voir des résultats concrets. Ça ne change pas tellement les résultats, et souvent les calculs sont plus faciles, donc ça c'est très bien. Mais en revanche, quand vous vous rapprochez de la transition de Mott, les termes non-densité-densité, donc les termes de XY et les termes de pair hopping, deviennent extrêmement importants et changent la nature de la transition, avec une forte tendance à une transition du premier ordre dans le cas où on néglige ces termes, qui est restaurée, et une transition du second ordre qui est restaurée par ces termes non-densité-densité. Alors, ça c'est des paroles, donc je vais vous montrer des calculs. Ce problème a été remis tout récemment sous les feux de la rampe à cause des pniqûres de fer, dans lesquelles il est tout à fait clair que le couplage de Hund joue un rôle important. Et là, j'ai même... on n'a pas attendu les pniqûres de fer pour s'intéresser à ce problème. Il y a eu des articles dès le milieu des années 90 qui, dans le courant du développement des méthodes des MFT en particulier, se sont mis à s'attaquer à ces problèmes multi-orbitaux. Je vois que Marcello Rosenberg est là. Il a été, je crois, le premier à écrire un article sur la transition de Mott multi-orbitale en DMFT. Et puis, peu à peu, au cours des années, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu de plus en plus d'études de ce problème. Et récemment, il y a véritablement un regain d'intérêt pour ces effets du couplage de Hund à cause des pniqûres de fer. Ça, c'est un article tout récent, vous voyez, 15 juin, qui étudie la dépendance du couplage critique en fonction des paramètres U et J sur U, où J est le couplage de Hund, pour un problème à deux orbitales avec deux électrons, donc un toy problème, disons. Et vous voyez ici, ce qu'il faut regarder, c'est que si J égale 0, je suis à ce couplage critique très grand, hein, et si J est non nul, eh bien j'ai une réduction assez rapide de ce couplage critique, et vous voyez que les deux frontières qui sont indiquées ici sont la frontière obtenue dans le cas où je néglige les termes non-densité-densité, c'est la frontière bleue, et la frontière orange, elle est obtenue quand je prends en compte termes non-densité-densité, donc les termes XY et pair hopping. Donc vous voyez que quand on commence à s'approcher de la transition, ça joue un rôle important et ça change la valeur du couplage critique, mais ça change également la nature de la transition. Ça, c'est un dessin du résidu du poids des quasi-particules Z, donc dans ces approches, l'inverse de la masse effective, en fonction de U, pour différents J. Donc pour un J très petit, vous voyez que vous avez ici une transition donc qui correspondrait à quelque chose comme ça, hein, ici à une valeur relativement grande du couplage. Et puis quand vous commencez à mettre le couplage de Hund, eh bien, ce que vous observez, c'est une forte réduction de la valeur critique pour aller vers l'isolant. Donc ça, c'est un premier point. Mais vous voyez aussi que la nature de la transition change. Si vous oubliez les termes non-densité-densité, donc ça viole les symétries du problème, vous trouvez un saut du résidu de quasi-particules, alors que vous pouvez continuer cette solution métallique. Et c'est assez normal, les termes de spin-flip aident à restaurer les fluctuations du métal, en fait. Il y a toute une physique, d'ailleurs, assez intéressante là-dessus, pour finalement laisser une transition du second ordre. Alors, c'est tout à fait clair que ces effets sont importants. Par exemple, pour des matériaux ayant une forte dégénérescence orbitale, comme les pniqûres de fer. Imaginons, donc, comme vous le savez, on l'a vu au séminaire de Vérenec-Bouet, ces pniqûres de fer sont des systèmes où il y a 5 orbitales actives près dans une fenêtre d'énergie petite près du niveau de Fermi. Donc la dégénérescence orbitale est importante. Hein. Vous avez 6 électrons. Donc vous êtes dans une situation qui n'est pas si loin que ça d'une bande dégénérée avec proche du demi-remplissage. Alors, si vous utilisez la formule que je donnais tout à l'heure, là, cette formule de Gutzwiller, que vous négligez J, vous allez conclure que le U critique devrait être à peu près 25 fois l'énergie cinétique disponible par électron dans la bande, ce qui va vous mettre dans des U critiques de l'ordre de 10 à 20 électronvolts. Donc, très clairement, si vous négligez le couplage de Hund dans ce matériau, vous devriez conclure que ce matériau, c'est le sodium. C'est-à-dire, c'est un matériau qui n'a aucune corrélation. ce qu'on a vu tout à l'heure, les calculs RPL donnent des valeurs de l'ordre de 3 électronvolts, quelque chose comme ça. Alors, ce qui change complètement les choses par rapport à cette réalité, c'est J. Et ce n'est pas une grande nouvelle que le fer a des couplages de Hund importants. Mais enfin, c'est important de s'en rendre compte. Et effectivement, le J réduit drastiquement la valeur critique pour la transition de mode. Ça, tout le monde est d'accord. La question est de savoir si le U dans ces matériaux est 3 électronvolts et le U critique 5 électronvolts, ou bien si le U critique est 6 électronvolts et le U 2,5 électronvolts. Donc, est-ce qu'on est très proche de la transition de mode? Est-ce qu'on est un peu moins proche de la transition de mode? Ça, ce sont des questions qui sont complètement débattues. Il y a des gens qui se positionnent de chaque côté de cette transition, mais personne ne dit, en tout cas, que ça, c'est le cas dans ces systèmes. Hein. Donc, vous voyez que le couplage de Hund est très important. C'est quelque chose qui a été remarqué dans ce contexte, peut-être pas tout à fait pour les bons matériaux, mais dans ce contexte par Hawley et Cotillard, très tôt dans ce domaine, où ils avaient montré que la susceptibilité locale en fonction de la température passait très vite d'un comportement poli à un comportement Curie-Weiss quand on changeait le couplage de Hund, ce qui reflète simplement le fait que quand on est J égale 0, on est très très loin du métal corrélé. Quand on augmente J, on se rapproche du métal corrélé et on a beaucoup de mal à écranter les moments locaux. Dans un article récent avec Marcus Eichhorn et Zilke et nos collègues japonais, on a montré que ces notions étaient très pertinentes, en particulier pour les systèmes monocouches comme iron selenide, dans lesquels on peut, je crois, clairement affirmer que ce matériau est un matériau corrélé à cause du couplage de Hund, fortement corrélé à cause du couplage de Hund. Bon, j'en dis pas plus sur les pnictures de fer, de toute façon mon cours est bientôt fini. Et évidemment, il y avait beaucoup d'autres choses dont je voulais vous parler. Je vais quand même vous dire rapidement un certain nombre de choses supplémentaires. Au-delà, je dirais, des simples modèles, peut-être, avec. J'ai déjà fait des connexions avec des vrais matériaux. Donc, j'ai parlé d'orbitales toutes dégénérées et de l'effet du couplage de Hund. Et une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la compétition entre l'interaction répulsive et la levée de dégénérescence orbitale. Donc revenons un instant à la situation où j'aurai toujours plusieurs orbitales, pas de J, J égale 0, mais où maintenant je regarde l'effet d'une levée de dégénérescence orbitale. Alors par exemple, on avait vu, vous vous souvenez, que dans cette série d'oxydes de métaux de transition, qui étaient tous décomposés avec un électron D nominalement, eh bien, on avait un multiplet T de G, qui était parfaitement dégénéré parce qu'on avait une symétrie cubique parfaite pour strontium VO3, mais où il y avait une levée de dégénérescence au sein du multiplet T de G, je ne parle pas de G, T de G, je parle d'une levée de dégénérescence au sein du T de G, due à la distorsion des octaèdres, particulièrement grande pour ce composé yttrium TiO3. On avait vu ça au cours 5. Alors, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ça joue un rôle important pour piloter la transition de mode. Ça, c'est de nouveau une étude modèle en utilisant des méthodes de type DMFT où on regarde J égale 0, mais on regarde pour deux orbitales, un électron dans deux orbitales. Donc, c'est probablement légitime dans ce cas-là de négliger J en première approximation. Le diagramme de phase dans le domaine de paramètres U et delta, où delta est la levée de dégénérescence entre les deux orbitales, le splitting des deux orbitales. Alors, vous voyez qu'il y a quatre phases dans ce problème, ou quatre régimes, ce qui est ce à quoi on s'attend. Il y a une transition de Mott, qui est cette ligne noire, entre un métal et un isolant. Bon, alors, première observation, c'est que cette transition de Mott, qui se situe à une couplage critique ici, en l'absence de levée de dégénérescence entre les deux orbitales, elle est réduite par le splitting delta. Et ça, c'est bien normal, puisque ici, quand delta est très grand, on doit retrouver un électron dans une seule orbitale, l'autre, elle est partie à l'infini, et donc on doit retrouver la valeur du problème de Hubbard à une bande demi-remplie. Donc on a une certaine transition de mode ici, et donc quand on dit que dans ces matériaux, la transition de mode est pilotée par la largeur de bande, en fait, très probablement, c'est une simplification très abusive, parce que ces différents matériaux, si j'avais à les positionner dans un diagramme de ce type, il y en a deux pour lesquels le delta est petit, et deux pour lesquels le delta est beaucoup plus grand, et surtout yttrium TiO3. Donc je pense qu'en fait, on a même écrit des articles pour dire que la transition de mode dans ces matériaux était largement pilotée par la distorsion du système, par la levée de dégénérescence du champ cristallin, au moins autant, disons, que par la réduction de la largeur de bande, qui existe aussi. Alors, incidemment, il y a un autre effet que vous voyez sur ce diagramme, c'est que si vous regardez la nature de la solution isolante paramagnétique, eh bien, il y a ici deux régimes. Il y a un régime où l'isolant est un isolant où il y a une polarisation orbitale partielle, c'est ça que ça veut dire PPI, Partially Polarized Insulator, avec sous cette ligne verte ici. Donc vous voyez, pour des tout petits champs cristallins dans ces unités, on a une polarisation orbitale partielle, alors qu'assez rapidement, on arrive à complètement polariser le système dans une certaine combinaison linéaire d'orbitales bien déterminée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre en couplage fort par une analyse très simple, en projetant le système, isolant cette fois, sur des spins localisés. Et comme avant, j'ai besoin d'un opérateur de spin et d'un opérateur d'isospin, hein, qui est mon degré de liberté orbital, ici aussi spin 1,5, puisque j'avais que deux orbitales. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les modèles de Kugelkowski, qui décrivent donc les isolants multi-orbitales dans le régime localisé. C'est la généralisation du modèle de Heisenberg, hein, au cas multi-orbital. Et vous voyez que dans ce cas particulier, ce modèle de Kugelkowski contient trois termes. Il y a un terme d'échange de type Heisenberg, un terme d'échange pour les isospins et un terme mix. Il se trouve que dans le cas particulier que j'ai considéré, tous ces couplages sont en gros égaux, reliés au même paramètre, et ils sont tous proportionnels à T carré sur U, hein, qui est le super échange. Et puis, évidemment, dans ce langage, la levée de dégénérescence de champ cristallin joue le rôle d'un champ uniforme qui couple à l'opérateur d'isospin orbital. Donc, vous voyez que vous avez un problème dans lequel vous avez un champ uniforme en présence d'un super échange, je dirais, antiferromagnétique pour ces degrés de liberté orbitaux. Et donc, la réponse au problème, c'est que vous polarisez le système quand delta devient comparable à T carré sur U. C'est ça la réponse. Alors, T carré sur U, dans ces systèmes, c'est quelque chose qui est quelques milliers de Kelvin, hein, donc, disons, 0,1, 0,2 électronvolts. Hein, et delta, à cause de la distorsion de ces octaèdres, peut aussi atteindre ces valeurs. Alors, en fait, les calculs de structure électronique pour ces matériaux montrent que les delta caractéristiques sont de l'ordre de 1 tiers d'électronvolt, hein, pour yttrium TiO3. C'est-à-dire le splitting des bandes au sein du multiplé T2G est de l'ordre d'une fraction d'électronvolt. Et donc, on peut facilement franchir cette frontière et obtenir un isolant avec polarisation orbitale forte. Et les méthodes de type champ moyen dynamique réaliste permettent même, dans ce système, de préciser quelle combinaison linéaire d'orbitales prend pratiquement tout l'électron du problème. Alors on peut faire des beaux dessins comme ça, où vous voyez l'orbitale dominante, qui est une combinaison linéaire des XY, XZ et YZ, qui contient, dans le cas de l'antenne TiO3, 0,88 électrons par rapport au 1, et ici, pratiquement, tout l'électron est dans une orbitale donnée pour yttrium TiO3, et donc vous voyez qu'effectivement, on pense dans ce matériau que c'est largement la polarisation orbitale et la levée de dégénérescence qui contrôle le fait que ces deux matériaux sont isolants alors que les deux vanadates sont métalliques. Bon, alors, dans tout ça, on a négligé notre ami le couplage de Wundt. Et le couplage de Wundt, c'est pas la peine de réfléchir longtemps pour voir qu'il va avoir l'effet opposé, en fait. Hein, puisque delta va aimer polariser en orbitale, donc mettre tous les électrons dans la même orbitale. Mais en revanche, le couplage de Wundt, lui, il n'aime pas ça du tout. Hein, il veut répartir les électrons dans des orbitales différentes. Donc là, il y a une guerre entre la polarisation, la levée de dégénérescence du champ cristallin et le couplage de Wundt. Et on peut trouver des situations dans lesquelles la guerre est gagnée par le couplage de Wundt. Alors ça, c'est ce qu'on a proposé pour un autre matériau que Jean-Paul Pouget connaît très bien, qui est barium VS3. Donc, j'ai manifestement pas le temps de vous en parler, mais c'est juste pour vous dire que la situation opposée est possible. Dans ce cas-là, les levées de dégénérescence ne jouent pas un rôle énorme. Ce qui joue un rôle important, c'est le couplage de Wundt. Et le couplage de Wundt au contraire, produit une compensation des populations orbitales par rapport à un calcul ou à une approche, comme le calcul de structure de bande, qui ignorerait les corrélations. Et on pense que la raison pour laquelle ce matériau fait une onde de densité de charge, c'est précisément parce que le couplage de Hund introduit une compensation des polarisations orbitales qui va mettre le système dans une situation favorable pour l'onde de densité de charge. Donc je passe sur ça parce que j'ai pas le temps de vous en parler. Bien, bon, donc je vais essentiellement conclure. Il y a un dernier effet du couplage de Hund qui est lié à ce dont je parlais tout à l'heure et qui est l'objet de beaucoup de travaux actuellement, qui est que ce couplage de Hund, en fait, est très efficace pour supprimer la fameuse échelle de cohérence des quasi-particules dont j'ai parlé en particulier au cours précédent. Hein. Vous vous souvenez que cette échelle de cohérence, c'était en gros U moins U critique, hein, c'était contre, ou le dopage, c'était contrôlé par la proximité de la transition de mode. Ça, c'est une analyse simple en l'absence du couplage de Hund. En présence du couplage de Hund, il y a une suppression de cette échelle de cohérence qui peut être très importante quantitativement. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié au niveau des modèles d'impureté Kondo, à la fois par des méthodes relativement récemment, à la fois par des méthodes de groupes d'anormalisation numérique. Il y a aussi un joli article récent de Nevidomsky et Coleman qui considèrent ce problème dans une formulation de type Poorman scaling. Et nous, on est en train de terminer des travaux avec Yernaï Mravier qui montrent que cet effet est important pour expliquer le fait que certains oxydes de métaux de transition 4D sont fortement corrélés parce que les échelles de cohérence sont réduites par ce couplage de Hund, en particulier les routes ENOT. Mais ça sera sûrement l'objet d'un séminaire quelque part l'année prochaine. Donc pour conclure ce cours, peut-être on pourrait, d'une manière très caricaturale, caricaturer un peu les choses de la manière suivante. Donc vous voyez que dans ce monde des oxydes de métaux de transition, il y a évidemment un acteur dominant qui est l'interaction électrostatique de Hubbard, c'est la physique de Mott, U. Ça joue un rôle très important, évidemment, surtout pour les oxydes de métaux de transition 3D. Mais ce U décroît à cause de l'extension croissante de spatiale des orbitales 4D puis 5D. Ce U décroît quand on va vers les oxydes de métaux de transition 4D et 5D. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces matériaux sont faiblement corrélés. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres interactions qui deviennent importantes et qui se mettent à induire d'autres formes de corrélation électronique. Et disons, de manière très schématique, et pour terminer ce cours sur une caricature, on pourrait peut-être dire que les oxydes 4D sont dominés par des corrélations liées au couplage de Hund, et les oxydes 5D, ça va être à Léon de nous en parler tout à l'heure, sont peut-être dominés par des effets de corrélation liés au spin-orbite, au moins pour certains d'entre eux. Donc il y a une espèce de hiérarchie, qui est aussi une hiérarchie dans la force de ces différentes interactions. Voilà, donc je crois que ceci conclut ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi pour avoir tardé, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cycle de cours et j'en profite pour annoncer celui de l'année prochaine, qui aura donc lieu bientôt, puisqu'il s'agit d'une série que je vais faire à l'automne, donc novembre et décembre, premier cours le 9 novembre. Il y aura une série de 6 cours qui seront accompagnés de 9 séminaires, principalement des séminaires expérimentaux. Et ce que je voudrais faire, c'est avoir qu'on ait une espèce, si vous voulez, de forum dans lequel on fasse un peu le point, enfin, nécessairement partiel, évidemment, sur où est-ce qu'on en est de l'état des expériences et de notre compréhension ou notre incompréhension théorique des cuprates supraconducteurs. Donc je crois que c'est une bonne occasion d'utiliser le potentiel extraordinaire qu'il y a dans la communauté immédiate ici, à la fois à Paris-Centre et sur le plateau de Saclay, dans le domaine des cuprates supraconducteurs, pour faire un petit peu ce bilan. Donc ça sera une forme de cours un petit peu différente. On aura des après-midi complètes. Il n'y en aura que 6 d'un autre côté. Ça sera le mardi de 14h à 17h45, une heure de cours, et soit une heure, soit deux heures de séminaire, selon les fois. Où on va essayer de faire le point sur, enfin un point partiel sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être on peut, si vous avez des questions, comme c'est le dernier cours, on peut peut-être prendre déjà des questions maintenant, puis on en reprendra évidemment après le séminaire de Léon. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit sur la physique, soit sur l'organisation. Non ? Tout le monde a envie d'une petite pause. Bon, voyez, vas-y, Jean-Paul.
Si tu mets des orbitales F, qu'est-ce qui devient important ?
Alors, donc, dans les matériaux à électrons F, alors c'est vrai que, oui, tu fais bien de poser cette question, Jean-Paul, parce que ce cours s'est distingué par une absence remarquable des orbitales F. Alors, ce n'est pas du tout parce que je n'aime pas les matériaux à électrons F, on s'en est pas mal occupé aussi, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout faire, quoi. C'est sûr, en 8 séances, on ne peut pas tout faire, donc ça, je ferai sûrement un cours, une année, sur la physique des composés à électrons F et des fermions lourds. Alors, bon, pour moi, ce qui est dominant dans la physique des matériaux à électrons F, c'est d'abord et avant tout le fait que ces orbitales, elles ont vraiment tendance, pour les 4 F, à être très, très, très localisées. Hein, donc, c'est vraiment des effets entropiques entre création d'un moment local ou écrantage du moment local par l'effet Kondo. Bon, ça, on sait bien. Alors, évidemment, il y a des cas qui sont... par ailleurs, pour les matériaux à électrons F, ceux qui existent et qui ont été beaucoup étudiés, il y en a relativement peu pour lesquels le couplage de Wundt joue un rôle si important, parce que la plupart sont des composés du cerium avec un seul électron ou de l'ytterbium avec un seul trou. Alors, il faudrait aller vers des terres rares plus complexes, mais où les électrons F puissent aussi un peu se délocaliser pour commencer à avoir des effets importants. Dans son papier, Coleman et Nevidomsky citent certains fermions lourds ayant une tendance au ferromagnétisme, ce qui est relativement rare, où le couplage de Wundt pourrait devenir important. Alors évidemment, quand on va vers les 5F, là je suis en train de commencer un nouveau truc, il y a une tendance à la transition localisée-délocalisée vers le milieu de la série, aux alentours du plutonium, justement. C'est pour ça que le plutonium, malgré son caractère peu propice aux expériences, a fait l'objet de beaucoup d'études théoriques récemment. Donc il y a toute une physique qui mélange Kondo et Mott dans ces systèmes, est très intéressante et qui devrait faire l'objet d'un autre cours. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.